Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, ou PPATK, va inaugurer l'Institut indonésien des renseignements financiers. PPATK s'engage à augmenter la participation au forum international. Le ministre des Affaires sociales a dit « Ewarong du programme de famille idéale est sorti pour réduire la pauvreté. Les tourbières Indonésie a le potentiel de contribuer aux devises du pays. La promotion augmentera la demande de l'exportation du batik national. » Et enfin, une équipe de filles de Wisemu a atteint avec succès le pic de Vinson Massif. Voici le journal complet. Le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, va inaugurer l'Institut indonésien de renseignement financier, IFWI, à Depok, Java West, en mars. Ce centre de formation et d'éducation de l'anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera la plus grande institution en Asie du Sud-Est. Le chef de PPATK, Ki Agus Ahmad Badahuddin, lundi à Jakarta, a dit qu'il espérait que l'Institut indonésien de renseignement financier serait utilisé dans les efforts visant à améliorer la capacité des ressources humaines dans la suppression du nombre de blanchiments d'argent. Il a dit que cette institution pourrait être profitée non seulement par le peuple de l'Indonésie, mais aussi par les communautés internationales afin que le blanchiment d'argent soit terminé.
Diharapkan di gedung itu kita dapat melaksanakan.
On espère dans le bâtiment nous pouvons faire la formation notre ressource humaine. Non seulement PPATK, mais la formation comprend aussi aux agents d'application de la loi concernant le blanchiment d'argent dans le cadre national et régional. Plus tard, nous allons faire des ateliers dans toute la région afin que la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soit bien fait. En plus, Ki Agus Ahmad Badahuddin a déclaré que le programme d'enseignement qui sera donné à l'Institut indonésien de renseignement financier sera donné par l'équipe spéciale de renseignement financier et les agents d'application de la loi de l'Indonésie et les pays de la région de l'ASEAN. Selon lui, le programme à apprendre pour les participants sont les matériaux nécessaires pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un autre module est relié au crime prédit et le modus operandi commis par le criminel ainsi que les efforts de l'anticipation. L'institution sera également utilisée comme une plateforme pour partager des expériences des différents pays dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, s'est engagé à accroître sa participation au Forum international d'examinateurs financiers en 2017. Cet engagement a été déclaré par le chef de PPATK, Ki Agus Ahmad Badahuddin, dans son discours sur le plan de la propriété de travail de PPATK 2017, lundi à Jakarta. La participation active de PPATK au Forum international apportera des avantages à cette institution à améliorer la performance liée à l'analyse des transactions financières.
Yang mendapat perhatian kami di tahun 2017 ini adalah
L'une de nos préoccupations est le renforcement de PPATK au forum international. Il est nécessaire car, d'abord, afin de renforcer la capacité de PPATK en tant qu'organisation et en tant qu'individu, deuxièmement, est de renforcer nos coopérations pour s'aider mutuellement. Si nous participons activement aux forums régionaux et internationaux, nous obtiendrons des aides plus faciles avec une meilleure qualité. Selon Ki Agus Ahmad Badarudin, jusqu'à présent, le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, a participé activement à plusieurs forums internationaux, à savoir le groupe d'action financière, le groupe d'Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent et le groupe d'Ekmon, comme le forum pour les renseignements financiers dans le monde entier. Après le sommet de lutte contre le financement du terrorisme qui a eu lieu à Nusa Dua, Bali en 2016, le rôle de PPATK augmente dans divers forums régionaux et internationaux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le premier lancement de E-Warung a été fait à Depok lundi, le 9 janvier 2017, inauguré par la ministre des Affaires sociales, Hovifa Indar Parawansa. Le lancement de la société d'entreprise commune du programme de famille idéale ou kelompok usaha bersama programme Keluarga Harapan et le suivi de l'engagement du ministère des Affaires sociales pour alléger la pauvreté par des synergies du programme de famille idéale avec la société d'entreprise commune. Cela a été dit par la ministre des Affaires sociales tout en donnant une séance d'information à Depok lundi le 9 janvier 2017. La ministre Khofifah, dans le lancement de E-Warung de la société d'entreprise commune du programme de famille idéale, a également socialisé la carte de famille prospère, dont la fonction est d'être utilisée comme un moyen de transaction de paiement dans les programmes d'aide alimentaire pour les bénéficiaires du programme de famille idéale et les programmes futurs de l'aide sociale. Les zones de tourbière dans toute l'Indonésie devraient avoir un grand potentiel pour contribuer à changer du pays jusqu'à des milliards de roupias. Le chef de l'entreprise de restauration de tourbe, Nazir Fouad, à Yogyakarta, vendredi, a dit que l'Indonésie continuerait de tenir un engagement à réduire les émissions de carbone jusqu'à 29% à 2030. Selon lui, si l'objectif du gouvernement est atteint ou excessif, le potentiel de la contribution au revenu national a également augmenté de manière significative. Selon Nazir Fouad, il y a de nombreux pays dans le monde qui nécessitent des crédits de carbone de réduction des émissions qui peuvent maintenant être achetés et vendus et devenir l'un des investissements supplémentaires dans le monde. Il a dit que l'Indonésie pourrait gagner des devises étrangères importantes supplémentaires par la vente de carbone aux pays qui en ont besoin, car tous les pays du monde ont ciblé à réduire ces émissions de carbone. Et s'ils n'y arrivent pas, alors ces pays peuvent les acheter des pays qui en possèdent excessivement. La promotion à travers diverses activités sont capables d'augmenter la demande d'exportation du batik national. C'est ce qu'a annoncé le directeur général des petites et moyennes industries du ministère de l'Industrie, Mme Gati Wibawaningsih, à travers une déclaration écrite reçue par Antara lundi à Jakarta lors d'une visite de travail au centre de batik à Pekalongan, Central Java. Sur la base du dossier du ministère de l'Industrie, les exportations de batik et les produits de batik en 2015 ont atteint 178 millions de dollars américains, soit une augmentation de 25,7% par rapport à l'année précédente, avec les principaux marchés d'exportation sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. Pour encourager le développement de la compétitivité de l'industrie du batik national, le directeur général des petites et moyennes industries a fait divers programmes stratégiques qui couvrent entre autres des conseils techniques et une assistance d'experts. Pendant ce temps, pour atteindre la commercialisation, le ministère de l'Industrie développe un programme e-smart des petites et moyennes industries qui utilise la technologie d'information. À travers ce programme, les petites et moyennes industries peuvent commercialiser les produits par le marché existant de sorte que tous les consommateurs peuvent l'accéder. Une équipe de filles de Grimper de l'Université de Parahyangan Bandung, WISEMU, a réussi à hisser le drapeau au plus haut sommet de l'Antarctique. le Mont Vinson Massif. Le communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta a informé à la pointe de l'iceberg et le zoo également en clon à portée de l'Indonésie. Le succès de l'équipe USMO à hisser rouge blanc sur le plus haut sommet de l'Antarctique est un hommage à l'unité de la nation indonésienne. Pour atteindre le sommet de Vinson Massif, ils ont voyagé et la longue montée pendant environ 4 jours depuis le 1er janvier 2017. Grâce à ce grimpant, l'équipe de Wissemo est enregistrée en tant que deux premières femmes indonésiennes qui ont mis le pied sur le sommet du mont Vinson Massif. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La fin du conflit sur l'accord de Timor-Leste et l'Australie. Dans une déclaration commune, le lundi 9 janvier, le Timor-Leste et l'Australie ont convenu de mettre fin à l'accord sur la frontière maritime dans le Timor Gap. Depuis il y a 10 ans, les deux parties ont contesté sur les eaux limitrophes au sud de Timor-Leste. Les deux pays ne peuvent pas parvenir à un accord. Le Timor-Leste a pris ce cas à la Cour internationale d'arbitrage à La Haye, les Pays-Bas. Par conséquent, le Timor-Leste assure ses exigences que l'accord nommé « Certains arrangements maritimes dans la mer de Timor » est terminé. Dans un communiqué, le gouvernement australien reconnaît également le droit de Timor-Leste pour lancer la clôture de l'accord. L'accord expirera 3 mois après la date de l'annonce. En 2006, le Timor-Leste et l'Australie ont signé un accord maritime sur la mer de Timor. Auparavant, en mai 2002, les deux pays ont conclu un accord sur le partage des ressources naturelles au Timor oriental. Mais ils ne disposent pas encore d'une frontière maritime claire. Par conséquent, le Timor-Leste a envoyé une lettre aux négociations à l'ONU pour déterminer la délimitation de zones maritimes. Selon le Timor-Leste, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou UNCLOS, sera le tirer le meilleur parti des réserves de pétrole et de gaz dans la mer de Timor sur son territoire. Cependant, l'Australie se retire de la Convention. Initialement, l'Australie ne voulait pas que cette question ait portée devant la Cour d'arbitrage internationale. Selon l'Australie, la Cour n'a pas compétence sur cette affaire parce que l'Australie avait signé un accord bilatéral. Mais Timor-Oriental a insisté la Cour afin d'aider à mettre fin le conflit parce que quelques négociations ont atteint une impasse. La Cour d'arbitrage internationale est convenue de juger des conflits et exprimer que la Cour d'arbitrage internationale autorise à traiter la conciliation par la Commission. Le ministre australien des Affaires étrangères a reçu la décision de la Commission et va suivre la prochaine étape du processus. La Commission de conciliation de la Cour, qui existe de 5 personnes, décide que le conflit doit être résolu en vertu de UNCLOS et n'est pas d'accord que le conflit est résolu par l'accord de certains arrangements maritimes dans la mer de Timor. Selon l'Indonésie, cette question est le conflit bilatéral entre le Timor oriental et l'Australie qui est souhaitable puisse être résolu par la négociation. L'intérêt de l'Indonésie dans ce cas est de voir les conditions dans la région qui est toujours positif. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le premier traitement antidiabétique le 11 janvier 1922. À Toronto, au Canada, un malade atteint de diabète est le premier homme à être soigné grâce à un traitement à l'insuline isolé le 27 juillet 2002 par le docteur Frédéric Grain-Banting et son assistant Charles Bess, l'insuline est un hormone pancréatique qui permet la régulation de la glycémie. Les recherches de Banting lui voudront d'obtenir le prix Nobel de médecine en 1923. L'autre information est sur Huascarán. Le mont Huascarán, aussi nommé en espagnol Nevado Huascarán, signifiant enneigé, est le point culminant du Pérou avec 6768 mètres d'altitude. On distingue en fait deux sommets Huascarán. Le plus haut, le Huascarán, sur à 6768 mètres, est séparé par le col de la Garganta du Huascarán Nord. Moins élevé et d'une altitude de 6655 mètres. Situé dans la région d'Ancas, il a donné son nom à une réserve biologique, le parc national de Huascarán. Le 11 janvier 1962, durant une phase de dégel, une partie du sommet nord s'est rompue, entraînant une avalanche de roches et de glace qui a détruit une dizaine de villages, dont celui de Ranrahirka, et a provoqué la mort d'environ 3500 personnes selon les sources. Nous finissons sur aujourd'hui avec l'événement Luder Leonidas Terry. Luder Leonidas Terry était sous-géant général des États-Unis du 2 mars 1961. Au 1er octobre 1965, il a été nommé par le président John F. Kennedy et est surtout connu pour les premiers avertissements officiels au sujet des dangers du tabagisme sur la santé. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, cinq ministres plantent des arbres à Sumber Brantas. Cinq ministres du cabinet de travail sous la présidence de Joko Widodo ont ajouté des collections plantes forestières de la conservation des forêts dans la zone d'arboretum à Sumber Brantas en ville de Batu, l'est de Java, en plantant des arbres poulets au Alstonania Scholaris, vendredi le 6 janvier. C'est ce qu'a rapporté l'agence de nouvelles Antara. Ces cinq ministres sont le ministre de coordination de l'économie, Darmin Nasution, le ministre des Travaux publics et du logement, Muhammad Basuki Hadi Mulyanto, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Rudi Antara, et Enggiar Tiasto Lukita, ministre du Commerce et le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto. La visite de cinq ministres à Arboretum de Sumber Brantas dans la forêt de conservation gérée par Pahum Jasa Tirtaang vise à observer plus près la zone de conservation de sauvetage des sources, en particulier à Sumber Brantas, qui devient le point zéro de la rivière Brantas dans la région de Malang et l'est de Java. Les arbres de poulet ou Alstonia scolaris qui ont été plantés par les cinq ministres ont la hauteur de 20 à 25 mètres. L'arbre peut grandir seulement dans la zone qui a des altitudes environ 500 à 1000 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ces plantes vivaces en Indonésie sont beaucoup trouvées à Java et à Sumatra. L'arbre est également connu comme arbre de bois de liège, iom ou Yomo, cependant cet arbre n'est pas largement utilisé pour les bâtiments, mais les ustensiles de ménage. En outre, il est également utile en tant que traitement du paludisme, la fièvre, la toux, la dysenterie, l'anémie, le diabète ou diabète sucré, l'hypertension et d'autres malades. outre l'Indonésie, la braie de poulet peut également grandir en Inde, au Sri Lanka, en Australie et aux îles de Salomon. Pendant ce temps, le directeur de l'ingénierie du Perum Jasa Tirta Ang, Raymond Velang Rukitan, accompagné par ses ministres, expliquait Arboretum de Sumba Brantas est une zone de conservation de sauvetage des sources gérée par Perum Jasa Tirta Ang, couvrant une superficie de 19 hectares avec des plantes plus de 10 000 arbres. Sur les 10 000 arbres, a dit-il, il y avait un type d'arbre rare, à savoir le pin de Panama apporté du Brésil. Lors de la conférence de l'environnement tenue à Rio en 1990, il y a seulement deux arbres rares en Indonésie. La conservation est effectuée pour assister à l'érosion, renforcer la zone de salandise et également pour assister à la rapidité de la sédimentation dans les rivières et les réservoirs. En techniquement, Perum Jasa Tirta Ang fait aussi des efforts de lutte contre les inondations en fonctionnant le bâtiment des infrastructures de contrôle des inondations comme les digues et vannes soutenues par l'équipement de télémétrie. En plus de planter les arbres poulets, les cinq ministres ont également observé la source qui devient le point de zéro de la rivière Brantas. Ils boivent en alternance l'eau potable à partir de cette source. Bien que le débit d'eau à Sumba Brantas est seulement 2,5 litres par seconde, cette source n'a jamais été réduite le débit au cours de la saison sèche. Sumba Brantas n'est pas affecté par la sécheresse, quand le débit même la mort a été. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir. Le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, va inaugurer l'Institut indonésien de renseignement financier, IFWI, à Depok, Java West, au mars. Ce centre de formation et d'éducation de l'anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera la plus grande institution en Asie du Sud-Est. Le chef de PPATK, Ki Agus Ahmad Badahuddin, lundi à Jakarta, a dit qu'il espérait que l'Institut indonésien de renseignement financier serait utilisé dans les efforts visant à améliorer la capacité des ressources humaines dans la suppression du nombre de blanchiments d'argent. Il a dit que cette institution pourrait être profitée non seulement par le peuple de l'Indonésie, mais aussi par les communautés internationales, afin que le blanchiment d'argent soit terminé.
Diharapkan di gedung itu kita dapat melaksanakan.
On espère dans le bâtiment nous pouvons faire la formation notre ressource humaine, non seulement PPATK, mais la formation comprend aussi aux agents d'application de la loi concernant le blanchiment d'argent dans le cadre national et régional. Plus tard, nous allons faire des ateliers dans toute la région afin que la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soit bien fait. En plus, Ki Agus Ahmad Badahuddin a déclaré que le programme d'enseignement qui sera donné à l'Institut indonésien de renseignement financier sera donné par l'équipe spéciale de renseignement financier et les agents d'application de la loi de l'Indonésie LAP de la région de l'ASEAN. Selon lui, le programme à apprendre pour les participants sont les matériaux nécessaires pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un autre module est relié au crime prédit et le modus operandi commis par le criminel ainsi que les efforts de l'anticipation. L'institution sera également utilisée comme une plateforme pour partager des expériences des différents pays dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, s'est engagé à accroître sa participation au Forum international d'examinateurs financiers en 2017. Cet engagement a été déclaré par le chef de PPATK, Ki Agus Ahmad Badahuddin, dans son discours sur le plan de la propriété de travail de PPATK 2017, lundi à Jakarta. La participation active de PPATK au Forum international apportera des avantages à cette institution à améliorer la performance liée à l'analyse des transactions financières.
Yang mendapat perhatian kami di tahun 2017 ini adalah
L'une de nos préoccupations est le renforcement de PPATK au forum international. Il est nécessaire car d'abord, afin de renforcer la capacité de PPATK en tant qu'organisation et en tant qu'individu, deuxièmement, est de renforcer nos coopérations pour s'aider mutuellement. Si nous participons activement aux forums régionaux et internationaux, nous obtiendrons des aides plus faciles avec une meilleure qualité. Selon Ki Agus Ahmad Badahuddin, jusqu'à présent, le Centre indonésien de rapport et d'analyse des transactions financières, PPATK, a participé activement à plusieurs forums internationaux, à savoir le groupe d'action financière, le groupe d'Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent et le groupe d'ECMON, comme le Forum pour les renseignements financiers dans le monde entier. Après le sommet de lutte contre le financement du terrorisme qui a eu lieu à Nusa Dua, Bali en 2016, le rôle de PPATK augmente dans divers forums régionaux et internationaux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le premier lancement de Ewarum a été fait à Depok lundi le 9 janvier 2017, inauguré par la ministre des Affaires sociales, Hovifa Indar Parawansa. Le lancement de la Société d'entreprise commune du programme de famille idéale ou Kelompok Usaha Bersama Programme Keluarga Harapan et le suivi de l'engagement du ministère des Affaires sociales pour alléger la pauvreté par des synergies du programme de famille idéale avec la Société d'entreprise commune. Cela a été dit par la ministre des Affaires sociales tout en donnant une séance d'information à Depok lundi le 9 janvier 2017. La ministre Khofifah, dans le lancement de Iwarong, de la Société d'entreprise commune du programme de famille idéale, a également socialisé la carte de famille prospère, dont la fonction est d'être utilisée comme un moyen de transaction de paiement dans les programmes d'aide alimentaire pour les bénéficiaires du programme de famille idéale et les programmes futurs de l'aide sociale. Les zones de tourbière dans toute l'Indonésie devraient avoir un grand potentiel pour contribuer à changer du pays jusqu'à des milliards de roupias. Le chef de l'entreprise de restauration de tourbe, Nazir Fouad, à Yogyakarta, vendredi, a dit que l'Indonésie continuerait de tenir un engagement à réduire les émissions de carbone jusqu'à 29% à 2030. Selon lui, si l'objectif du gouvernement est atteint ou excessif, le potentiel de la contribution au revenu national a également augmenté de manière significative. Selon Nazir Fouad, il y a de nombreux pays dans le monde qui nécessitent des crédits de carbone de réduction des émissions qui peuvent maintenant être achetés et vendus et devenir l'un des investissements supplémentaires dans le monde. Il a dit que l'Indonésie pourrait gagner des devises étrangères importantes supplémentaires par la vente de carbone aux pays qui en ont besoin, car tous les pays du monde ont ciblé à réduire ces émissions de carbone. Et s'ils n'y arrivent pas, alors ces pays peuvent les acheter des pays qui en possèdent excessivement. La promotion à travers diverses activités sont capables d'augmenter la demande d'exportation de batik national. C'est ce qu'a annoncé le directeur général des petites et moyennes industries du ministère de l'Industrie, Mme Gati Wibawaningsih, à travers une déclaration écrite reçue par Antara lundi à Jakarta lors d'une visite de travail au centre de batik à Pekalongan, Central Java. Sur la base du dossier du ministère de l'Industrie, les exportations de batik et les produits de batik en 2015 ont atteint 178 millions de dollars américains, soit une augmentation de 25,7% par rapport à l'année précédente, avec les principaux marchés d'exportation sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. Pour encourager le développement de la compétitivité de l'industrie du batik national, le directeur général des petites et moyennes industries a fait divers programmes stratégiques qui couvrent entre autres des conseils techniques et une assistance d'experts. Pendant ce temps, pour atteindre la commercialisation, le ministère de l'Industrie développe un programme e-smart des petites et moyennes industries qui utilise la technologie d'information. À travers ce programme, les petites et moyennes industries peuvent commercialiser les produits par le marché existant de sorte que tous les consommateurs peuvent l'accéder. Une équipe de filles de Grimper de l'Université de Parahyangan, Bandung, Wisemu, a réussi à hisser le drapeau au plus haut sommet de l'Antarctique. le Mont Vinson Massif. Le communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta a informé à la pointe de l'iceberg, il joue également un clown à portée de l'Indonésie. Le succès de l'équipe UCMO à hisser rouge blanc sur le plus haut sommet de l'Antarctique est un hommage à l'unité de la nation indonésienne. Pour atteindre le sommet de Vinson Massif, ils ont voyagé et la longue montée pendant environ 4 jours depuis le 1er janvier 2017. Grâce à ce grimpant, l'équipe de UCMO est enregistrée en tant que deux premières femmes indonésiennes qui ont mis le pied sur le sommet du mont Vinson Massif. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à visiter la plage de Canggu à Bali. Alors, restez toujours avec nous sur la Voix de Mizi, le service international de la RRI. Outre les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.vo.ce.id. Chers auditeurs, Bali est une destination touristique fréquentée par de nombreux touristes nationaux et étrangers. Cependant, avec la popularité croissante de sa beauté naturelle, ces plages célèbres à Bali sont de plus en plus encombrées pour la plupart des touristes. Par conséquent, beaucoup de touristes, en particulier les touristes étrangers, qui choisissent de commencer à naviguer les nombreuses attractions naturelles qui ne sont pas touchées par les nombreuses personnes. L'une d'elles est la plage de Canggu. La plage de Canggu est située dans le village du même nom, dans le district de Kuta du Nord, en résidence de Badung. La distance de la ville de Denpasar, la capitale de la province de Bali, à la plage est d'environ 18 km. Le voyage à partir de l'aéroport international Ngurah Rai à la plage prend environ 45 minutes en voiture. Mais la distance de la plage Kuat, on nécessite justement d'environ 20 minutes. Ne soyez pas vous inquiète si vous voulez séjourner ici. La plage de Canggu est équipée de diverses installations telles que des hôtels, des villas, un restaurant et un café. Chers auditeurs, parmi les nombreuses plages de Bali, la plage de Canggu est l'une des plages qui est digne à visiter, parce qu'elle n'est pas moins belle que les autres plages de Bali. Voyez plutôt le 30 mai 2013, CNN, la chaîne d'information câble en anglais, a mis trois plages d'Indonésie dans la liste de 100 meilleures plages du monde. La plage de Canggu a placé au 39e rang dans cette liste. La plage de Canggu possède une caractéristique spéciale de sable noir. Cette plage est devenue célèbre parce qu'elle a des vagues idéales pour le surf. En plus d'avoir de bonnes vagues, le panorama de la plage de Canggu est très beau. Ce qui est encore unique, face aux côtières, les touristes peuvent profiter de la vue sous la forme de vases de rizières. L'atmosphère de cette plage n'est pas beaucoup trouvée et certainement donne l'impression distante. Comme d'autres sites touristiques, la plage Canggu possède également une variété d'installations nécessitées par les touristes comme les restaurants, les cafés, des stations balnéaires, des hôtels et des villas. Le paysage du coucher du soleil à la plage Canggu devient aussi une attraction elle-même. Et ainsi, tout en profitant des plats de fruits de mer et une variété de boissons dans un restaurant ou un café, les touristes peuvent profiter de la vue sur le coucher du soleil. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage de Tchangou ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour ce soir est keracunan obat en français, empoisonné par des médicaments. Premièrement, je vais introduire le vocabulaire et les expressions dans la langue indonésienne reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Berbicara. Berbicara. En français, parler. Mengapa? Mengapa? En français, pourquoi? Dua hari. Dua hari. En français, deux jours. Tidak masuk kantor. Tidak masuk kantor. En français, être absent. Sakit. Sakit. En français, malade. Suara. Suara. En français, voix. Kedengaran, kedengaran. En français, être entendu. Lemah, lemah. En français, faible. Keracunan obat, keracunan obat. En français, empoisonné par des médicaments. Awalnya, awalnya. En français, au début. Batuk, batuk. En français, tout. Membeli, membeli. En français, acheter. Tanpa, tanpa. En français, sans. Recept, recept. En français, prescription. Docteur, docteur. En français, médecin. Allergie, allergie. En français, allergie. Sekarang, sekarang. En français, maintenant. Pemulihan, pemulihan. En français, récupération. Cepat sembuh, cepat sembuh. En français, se rétablir bientôt. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre keracunan obat, soit empoisonné par des médicaments en langue française. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Dona A et Nita B sur la téléphone. A. Halo, bisa berbicara dengan Nita? Halo, bisa berbicara dengan Nita? En français, bonjour, je peux parler avec Nita? B. Ya, saya Nita. Ya, saya Nita. En français, oui, je suis Nita. A. Hai Nita, mengapa kamu sudah dua hari tidak masuk kantor? Hai Nita, mengapa kamu sudah dua hari tidak masuk kantor? En français. Salut Nita. Pourquoi avez-vous deux jours d'être absent? A. Apakah kamu sakit? Apakah kamu sakit? En français. Êtes-vous malade? A. Suara kamu kedengaran sangat lemah. Suara kamu kedengaran sangat lemah. En français, votre voix était très faible. B. Ya, saya sakit. Ya, saya sakit. En français, oui, je suis malade. B. Saya keracunan obat. Saya keracunan obat. En français, je suis empoisonné par des médicaments. A. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? En français, comment est-ce que possible? B. Awalnya saya batuk. Awalnya saya batuk. En français, au début, je toussais. B. Saya membeli obat tanpa resep dokter. Saya membeli obat tanpa resep dokter. En français, j'ai acheté des médicaments sans prescription du médecin. B. Ternyata saya alergi dengan obat itu. Ternyata saya alergi dengan obat itu. En français, il se trouve que je suis allergique à ce médicament. A. Apakah sekarang kamu sudah ke dokter? Apakah sekarang kamu sudah ke dokter? En français, êtes-vous allé au médecin? B. Ya, saya sudah diberi obat. Ya, saya sudah diberi obat. En français, oui, j'ai obtenu le médicament. B. Sekarang tinggal pemulihan. Sekarang tinggal pemulihan. En français, maintenant c'est le temps de récupération. A. Semoga kamu cepat sembuh ya. Semoga kamu cepat sembuh ya. En français, j'espère que vous obtenez mieux bientôt. B. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Il est souhaitable que cette rubrique soit utile pour vous. Merci de votre fidélité. À demain. Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voc.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse Tetikadi. Bon, serviteur, avant que nous connaissions mieux les carrières de Tetikadi, nous allons écouter sa chanson intitulée « Bonne écoute ».
Lagu
Serviteurs, une île dans le détroit de la Sonde, à savoir des mille îles, sont devenus un favori pour les personnes à Jakarta pour le week-end en raison de sa beauté. Mais pour les artistes, cette île a inspiré de travailler un travail de qualité, le travail qui a réussi à soulever l'image de l'objet qui a inspiré. Comme la chanson « Mille îles » qui était populaire à l'ère de 60 à 70, Delair était inspiré par la beauté des mille îles. Cette chanson, chantée par Teti Kadi, n'est pas seulement aimée par les Indonésiens, mais aussi la communauté de l'ASEAN, comme la Malaisie et Singapour. Bon, serviteur, écoutons donc la chanson suivante de Teti Kadi, intitulée « Rose épineuse ». Bonne écoute.
Yeah.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme musical avec une chanteuse, Teti Kadi. Teti Kadi a un cousin qui est un compositeur et musicien, s'appelle Arianto, qui a eu un rôle très important dans ses débuts en tant que chanteur. Elle est devenue populaire dans la musique pop indonésienne grâce à son cousin qui a écrit de nombreuses chansons pour Teti Kadi qui sont devenues plus tard hits. Cependant, sa voix unique combinée avec un travail de Rianto fait chaque album qu'elle a sorti est connu comme Sepanjang Jalan Kenangan ou Au long du sentier du souvenir, Lotus Blanc et beaucoup d'autres sont devenus des succès instantanés. Peut-être pour la jeune génération d'aujourd'hui, les chansons ne sont pas si familières, mais un travail de qualité survit. Jusqu'à aujourd'hui, certaines chansons de Teti Kadi sont toujours bien aimées, parce que les notations enfilées dans le rythme de la chanson sont en harmonie avec le caractère de la voix du chanteur. Pas étonnant que les chansons de Teti, qui étaient populaires dans les années 60, peuvent encore être appréciées jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, Teti Kadi est plus intéressée par la politique que chanter. En 2004, elle a été élue membre du Parlement du Parti démocrate. Néanmoins, ses talents artistiques sont suivis par ses trois enfants. Bon, serviteurs, avant de terminer notre programme, voici les chansons suivantes de Teti Kadi intitulées « Avant que tu partes » et « Une paire de serfs ». Bonne écoute et au revoir.
Kau jauh dari aku ini.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.